au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Eh bien oui, nous sommes lundi, c'est le 15 décembre. J'espère que vous avez passé une belle journée. À l'émission aujourd'hui, Marie-Clotilde Caron et Nicolas Valois de l'Assomption qui organisent une course, écoutez bien ça, en culotte courte ce samedi 20 décembre. Pour le faire. Avec Pierre Paquette, il sera question de l'aile jeunesse du Parti libéral qui refuse d'appuyer Pablo Rodriguez. Avec nous également, le chef Sibi Flamand, président du Conseil des Atikameks de Manawan, avec qui il sera question le d'échange de services entre les corps policiers. Guillaume Tremblay sera avec nous, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Mascouche. On va parler de l'explosion du coût des travaux d'infrastructure. Également Isabelle Perrault, la nouvelle préfète de la table des préfets de Lanaudière, en fait plutôt la nouvelle présidente de la table des préfets de Lanaudière sera avec nous. Mais pour débuter l'émission, maintenant que les députés provinciaux ont regagné leur circonscription pour la période des fêtes, ben les analystes politiques, ils vont de leur bilan et d'entrée de jeu lors d'un entretien avec François Morin. Notre analyste politique, Mathieu Bélanger, a indiqué que la CAQ et le Parti libéral du Québec doivent oublier la dernière session, là. Et ça a été vraiment une session catastrophique pour eux, là.
Ah oui, c'est une session à oublier tant pour la CAQ que pour le Parti libéral du Québec. Au point où, dans les deux cas, pour François Legault pour la CAQ et Pablo Rodriguez pour le Parti libéral du Québec, la question qu'on se pose, c'est au retour des fêtes, seront-ils encore chefs? Et peu importe la réponse à cette question-là, juste le fait qu'on se la pose, est-ce qu'on se la pose régulièrement depuis quelque temps, ça mine incroyablement le leadership de ces deux individus-là. Ça les met sur la défensive en perspective des prochaines élections provinciales qui auront lieu à un moment ou un autre en 2026. Ça pousse les opposants, surtout les opposants à l'interne, à grenouiller pour tasser ces deux hommes-là. Surtout pour Pablo Rodriguez, dont le leadership est beaucoup plus fragile que celui de François Legault parce que la greffe n'avait pas encore prise depuis son arrivée. Les controverses des dernières semaines ont miné le peu d'ascendant qu'il avait réussi à avoir sur son parti. Pour François Legault, il a son ascendant sur son parti, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, l'usure du pouvoir fait en sorte que, on le soit mentionné ensemble, les députés caquistes voient bien les sondages comme tout le monde, entendent les soins comme tout le monde, et constate que si la tendance se maintient, et elle est très lourde la tendance présentement, il n'y aura, la plupart des députés devront aller au bureau de chômage ou se trouver d'autres emplois après les prochaines élections. On se dirige vers une défaite sanglante de la CAQ, et donc on va continuer à pousser François Legault à quitter pour que peut-être une autre personne puisse changer la tendance un peu beaucoup, comme Mark Carney a pu le faire au Parti libéral du Canada là, au printemps dernier.
Et s'il y en a un qui sort gagnant, c'est le Parti québécois, mais peut-être seulement en apparence, parce qu'évidemment, l'option souverainiste n'a pas encore, dans les sondages, recueilli une forte majorité. Et la façon de se comporter peut-être de Paul Saint-Pierre Plamondon peut, à la limite, être dangereuse pour le Parti.
Actuellement, le principal adversaire de Paul Saint-Pierre Plamondon, sans l'ombre d'un doute, est Paul Saint-Pierre Plamondon. Déjà, on mentionnait François Legault, Pablo Rodriguez sont dans une large mesure disqualifiés auprès de l'électorat, à tort ou à raison, mais c'est le constat factuel qu'on peut faire. Et Québec solidaire n'est pas dans la compétition, ni le Parti conservateur du Québec par ailleurs. Il reste à peu près juste actuellement le Parti québécois. On sent beaucoup plus une adhésion un rejet des autres formations politiques. On sent une adhésion à l'intégrité, disons, de Paul Saint-Pierre Plamondon. On aime comment qu'il a des convictions et qu'il les met de l'avant et qu'il est prêt à se battre pour ses convictions. Par contre, il a un petit côté soupe-au-lait qu'on a parfois noté dans les depuis les quatre dernières années, mais notamment au courant des quelques dernières semaines. Certaines déclarations qui peuvent lui nuire. Il y a toujours une ligne mince entre la force de ses convictions et l'arrogance. Et l'autre fragilité qui a été nommée aussi, évidemment, c'est qu'il met de l'avant la volonté d'avoir, la volonté claire d'avoir un référendum sur la souveraineté du Québec. En soi, ça, c'est pas une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose d'un point de vue partisan pour le Parti québécois lorsque cette option-là n'a pas la majorité de la population qui l'appuie et qu'on sent pas de mouvance vraiment très forte en ce sens-là. Quoique, on a pu voir au courant des quelques dernières années certains sables mouvants là-dessus, notamment au niveau des jeunes qui peuvent donner un peu d'espoir. Mais présentement, les électrices et les électeurs semblent plus se dire si c'est ça que ça prend pour se débarrasser de la CAQ, des libéraux, ben allons-y avec ça, donnons-nous un bon gouvernement, dans la perspective de ces gens-là, un bon gouvernement péquiste, puis on votera non après au pire, ça sera un mal à passer, mais après ça, les choses iront mieux d'un point de vue de la gestion de la province. Ça semble être un peu ça, la lecture de l'électorat présentement, en tout cas, pour l'instant. Le Parti québécois qui est loin en avance dans les sondages depuis un certain temps. Faut le voir par contre, si il y a un changement à la tête de la CAQ, s'il y a un changement à la tête des libéraux provinciaux, est-ce que là ça aura une incidence sur les états sur votre vote envers le Parti québécois? C'est possible, ça aussi, comme les conservateurs justement fédéraux l'ont appris au cours là, de la dernière année, au cours du printemps passé.
Parti conservateur, le message passe pas et Québec solidaire encore moins.
Effectivement, pour ces deux formations politiques-là, c'est toujours difficile. Il y a un petit terreau fertile, par contre, pour le Parti conservateur, qui réussit à entretenir la flamme depuis un certain temps, depuis les dernières élections. On a rebaissé dans les intentions de vote comparativement à ce qu'il y avait il y a quatre ans, mais on réussit à se faire entendre parler du Parti conservateur une fois de temps en temps, ici et ça, dans les médias, d'avoir une certaine présence et dans certaines... dans la grande région de Québec, en Beauce, dans certaines zones comme ça, d'avoir quand même un certain appui, mais ça demeure très difficile. Pour Québec solidaire, c'est un peu la même chose. On a perdu des appuis depuis 4 ans. La dernière session a été difficile aussi, encore des chicanes internes au sein de Québec solidaire. L'arrivée de Sol Zanetti peut donner un peu d'espoir à Québec solidaire, du moins on n'est plus en course pour déterminer qui va être co-porte-parole. L'équipe est en place, puis on sent que les du côté de Ruba Gazal que de Sol Zanetti, les gens seront bien en place pour d'ici les prochaines élections. Mais on réussit pas depuis les 4 dernières années à trouver la ligne, trouver la connexion avec les Québécoises, les Québécois pour être capable de remonter dans les sondages, mais même remonter dans la considération des gens. Pour la plupart des gens, c'est comme si Québec solidaire n'existait plus. Même chose avec le Parti conservateur. Et le danger, c'est que la CAQ se ramasse pas mal dans les mêmes eaux aussi. Donc, pour l'instant, ça demeure très difficile. Il reste un peu de temps pour changer la donne. Mais reste à voir comment on va être capable de faire ça. Et c'est difficile aussi parce qu'au sein de Québec solidaire, il y a un courant qui est très hostile envers le Parti québécois. Et donc, alors que le Parti québécois est plus élevé dans les sondages, comment marquer... En voulant trop taper sur le Parti québécois, ben ça peut aliéner des électeurs. Et ça aussi, ça demeure un défi de Québec solidaire, qui existe depuis longtemps, comment se positionner par rapport au Parti québécois qui partage un objectif souverainiste, mais comment démarquer la plus-value de Québec solidaire par rapport au Parti québécois. Ben présentement, on n'est pas capable de faire ça non plus.
C'était notre analyste politique Mathieu Bélanger là, au sujet de cette dernière session parlementaire. Il est 16h14 en dernière heure. On apprend que Donald Trump s'apprête à classer le fentanyl comme étant une arme de destruction massive, rien de moins. Ce qui veut dire en bout de ligne que le Canada, parce qu'il reproche au Canada d'envoyer du fentanyl aux États-Unis, alors que le Canada est un exportateur d'armes de destruction massive, ni plus ni moins, c'est ça que ça veut dire, et puis le Mexique encore pire. Ça va bien. Il est 16h15. Dans un moment, Isabelle Perrault, la nouvelle présidente de la table des préfets de la Naudière.
Envie de petits moments en amoureux? Profitez de votre nouveau mobilier de salon de chez Ameublement SJ Dion. Ameublement SJ Dion, c'est 3 étages de meubles, matelas, électroménagers et des articles pour décorer les pièces de votre maison. Nos conseillers en ameublement ont un talent naturel. Ils trouveront le beau qu'il vous faut. Ameublement SJ Dion, 1 rue Gautier Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Chez nous, c'est tellement chez vous depuis 60 ans. 450-759-1409.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Toujours 5 000 $ à gagner dimanche à 10h05 avec les trois jeux. Et mercredi, bingo spécial à 19h30, carte pleine à 5 000 $. Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Saint-Didas-Dépanneur des Lacs, à Saint-Édouard-de-Masquinongée, Quincaillerie-Dépanneur 348, à Saint-Angèle-de-Prémont, Épicerie Jacques-Lessard, à Saint-Ursule-Dépanneur Marie-Lou, à Saint-Alexis-des-Monts, Dépanneur Beaussoir, à Saint-Paulin-Boucherie 4 Saisons et à Louisville, Tabagie Grand-Père, Dépanneur Régional et Dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah, hey! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus. Il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Chez JM Sport Saint-Gabriel, découvrez la puissance et la fiabilité légendaire des VTT Honda. Pour le travailleur qui exige le meilleur, Honda offre performance et durabilité à chaque départ. JM Sport Saint-Gabriel, votre accès nature toute saison. 450-835-3407. Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. SonXPlusJoliette.com.
CFNJ.
Lanaudière PM. Affaires municipales.
Isabelle Perrault devient présidente de la table des préfets de Lanaudière. Elle succède au maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau, et François Morin a échangé avec elle au sujet des défis là, qui l'attendent, elle et ses collègues.
Est-ce que c'est la première fois qu'il y a une femme qui est élue à ce poste?
Oui, c'est la première fois. Première femme élue présidente.
Et évidemment, les mandats des MRC, comme des municipalités qu'on représente, évidemment, sont importants là, dans le contexte où, comme on le dit, là, ça craque de partout là, dans le monde municipal, au niveau des infrastructures notamment. On a besoin d'aide et Québec doit avoir l'oreille attentive.
Oui, ben je pense que c'est un mandat important de la table, là, c'est-à-dire de porter une voix forte de la Lanaudière auprès des gouvernements. Pour les besoins que les MRC ont en commun, là, entre autres, on parle d'habitation, de qualité de vie. C'est une année électorale qui s'en vient, donc je pense qu'on aura un rôle stratégique crucial à jouer, là, autant auprès du gouvernement que ceux qui aspirent à devenir le gouvernement.
Et au-delà des tendances générales qui se dessinent un peu partout au Québec, dans la Lanaudière, est-ce qu'il y a des défis plus importants que d'autres?
Ben, l'habitation, en fait, s'assurer là, que il y a un maintien de la qualité de vie avec des logements abordables. L'itinérance a des visages différents hein, entre les différentes MRC. Parfois, elle est beaucoup plus cachée que visible. Donc, pour les aînés, pour les travailleurs aussi, les travailleurs étrangers ou les travailleurs à plus petits revenus. C'est très important qu'on développe de l'habitation plus abordable. C'est difficile en ce moment. Même en milieu rural, là, c'est un défi important. Ça va être une priorité auquel il faudra s'attaquer. Tout ce qui est le développement social, on sait que dans les moments plus difficiles, ben, le soutien, le filet social qu'on déploie sur un territoire devient crucial. Donc ça, c'est vraiment maintenir de bonnes conditions de vie dans la Lanaudière, concrètement, là, en finançant des projets en sécurité alimentaire, en réussite éducative. Donc ça aussi, ça sera un mandat où on devra s'occuper particulièrement de ça. Et le développement économique avec des projets structurants qui assurent une certaine pérennité de nos projets, un essor de l'innovation dans le développement de notre économie. Entre autres, on a un projet durable là, pour les projets en énergie renouvelable qui est porté par la MRC Matawinie qui provient de la table des préfets. Donc, s'assurer qu'on ait des revenus et qu'on stimule l'économie au niveau régional, ça va devenir très, très important dans les prochaines années.
Est-ce qu'on parle ici des projets d'éoliennes qui ont commencé à pointe parce qu'Hydro-Québec a lancé un appel d'offres, justement, ou un appel de projet?
Bien, on parle de tout ce qui est énergie renouvelable, là, l'éolien, le solaire. En fait, ma position là-dessus a toujours été la même, c'est s'organiser avant de se faire organiser. Donc, s'assurer qu'on connaisse bien notre potentiel, qu'on sache ce qui est possible, qu'on en parle avec nos citoyens, qu'on détermine si chez nous, c'est des projets qui sont viables, acceptables et de quelle façon ça va se faire. Donc, on s'organise là actuellement pour bien connaître le portrait de la situation puis s'assurer qu'on prenne les décisions adaptées à nos citoyens et à notre territoire.
Je ne peux pas passer à côté de ce sujet-là. On dit souvent que l'union fait la force, sauf que là, il y a peut-être une petite désunion là au niveau de la table des préfets là avec le retrait de Pierre-Luc Bellerose là, de la table.
Ben, en fait, c'est le retrait de la MRC de Joliette qui s'est retiré. Donc, c'est une résolution du conseil. Puis, si jamais il y avait une volonté du conseil de la MRC de Joliette, des municipalités qui la composent, de faire partie de la concertation, de s'assurer de venir avec nous penser et élaborer des différents projets structurants pour la Naudière, ben, on va examiner ça. Mais comme on dit, conseil, ça parle par résolution, donc il faudra que ça vienne d'eux, puis on regardera ça sérieusement.
Alors, donc, pas question de tordre un bras, là?
Ah, ben non, dans le fond, comme vous l'avez dit, nous, on pense que l'union fait la force, la concertation, l'expérience aussi qu'on partage entre nous, c'est super important. Maintenant, la MRC Joliette est autonome et ses choix propres, là.
Bon, ben voilà, c'était cette nouvelle présidente de la table des préfets de la Naudière, Isabelle Perrault. Il est 16h22.
La Naudière PM, affaires municipales.
Ouais, les villes exigent de Québec une rencontre au sommet. En fait, les coûts des travaux d'infrastructure explosent là, depuis 10 ans et rien ne semble vouloir arrêter cette hémorragie-là. La capacité de payer des citoyens a évidemment atteint ses limites et Marie-Pierre Poulin s'est entretenue avec le président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay.
Ben écoutez, c'est 1,5 milliard, donc entre 2015 et 2025, à cause des normes qui sont imposées par le gouvernement, les différents paliers de gouvernement, ben le monde municipal paye en moyenne entre 900 millions et 1,5 milliard de plus par année les coûts de la construction. Les normes qui sont imposées par les gouvernements font vraiment mal au budget et au budget des villes, mais aussi à l'ensemble des contribuables québécois.
Et est-ce que l'objectif, c'est de servir cette étude-là pour convaincre les gouvernements, donc au Québec et à Ottawa, de venir en aide aux municipalités?
Ben écoutez, il y a deux choses. La première, c'est très certainement de revoir les normes québécoises, parce que vous savez qu'on évalue environ 45 normes qui sont de l'avant, qui sont mises de l'avant par le gouvernement. De un, et on trouve que ça n'a comme aucun sens. Des fois, ils avaient des normes là qui sont là depuis plusieurs années, mais qui n'atteignent plus les objectifs qu'elle avait, cette norme-là. Donc, de notre côté, on pense qu'il faut revoir les normes, puis aussi clairement, la portion du plan quinquennal en immobilisation qui vient du gouvernement du Québec, environ 2016-2017, c'était environ 7,3% de tous les investissements du Québec qui allaient dans le monde municipal. Maintenant, on est rendu à 4,3%, donc la portion que le gouvernement du Québec donne pour financer les infrastructures municipales descend année après année. Fait qu'on est vraiment dans deux facteurs. Un, on nous manque de sommes d'argent pour nous aider, mais de deux, si le gouvernement pouvait juste diminuer le nombre de normes, on irait beaucoup plus rapidement puis ça nous coûterait moins cher collectivement.
Puis, vous pensez que c'est quelque chose qui est faisable, qu'ils puissent modifier les normes?
Tout à fait. On s'entend ici, là, chaque norme a une raison d'être, mais mérite d'être évaluée dans son ensemble. Je vous donne un exemple. J'ai une collègue, la collègue de Longueuil, pour ne pas la nommer. En fait, l'acquisition d'une maison patrimoniale, elle a payé la maison 9 millions. Elle veut faire du logement abordable à l'intérieur de ça. Mais là, le gouvernement l'oblige à rendre le bâtiment qui respecte les normes au niveau des tremblements de terre. Ben, vous allez comprendre que, si cette norme-là, le bâtiment a été payé, mettons, 9 millions de dollars et l'investissement pour répondre aux normes au niveau des tremblements de terre coûte environ 40 millions. Auparavant, c'était un couvent de sœurs, ce bâtiment-là. Fait qu'il y avait toujours du monde qui couchait là. Donc, il y a comme un non-sens à l'intérieur de certaines normes, des fois, qui sont mises à l'avant.
Et là, j'imagine que vous allez avoir des discussions justement avec le gouvernement. Si les réponses sont plutôt négatives, s'ils sont tardives, est-ce qu'il va falloir faire des choix douloureux? Est-ce qu'il va falloir retarder des projets ou refiler des factures, mettons, à des contribuables?
Des choix douloureux sont déjà faits parce que c'est pas d'hier que les municipalités ont payé trop cher. Ce qu'on demande au gouvernement du Québec, c'est rapidement d'asseoir tous les intervenants, donc autant le monde municipal, les donneurs d'ouvrage, donc le gouvernement du Québec, qui est aussi bailleur de fonds, mais mettre tout autour de la table, les contracteurs, pour qu'on puisse justement tous parler ensemble puis trouver des solutions pour diminuer les coûts, clairement, qui, au bout de la ligne, c'est toujours payé par des citoyens.
Et est-ce que vous pensez que il pourrait aussi avoir davantage d'achats de groupes pour réduire, mettons, les coûts de toutes ces normes-là, par exemple?
Oui, ça se fait déjà. L'Union des municipalités du Québec a un regroupement d'achats. Donc, par exemple, pour les assurances, pour le sel de déglaçage, pour le carburant. Donc ça existe. Mais on peut aussi travailler mieux, mutualiser des services, travailler en équipe avec d'autres municipalités pour justement aller chercher les meilleurs prix possibles.
C'était le maire de Mascouche et président de l'Union des municipalités du Québec, Guillaume Tremblay, avec qui Marie-Pierre Poulin s'est entretenue. Des fois, on entend des choses qui font pas de sens. Et cet exemple que Guillaume Tremblay présentait concernant la ville de Longueuil, cette personne qui a acheté un ancien couvent de religieuses là, pour la somme de le montant de 9 millions de dollars et qui, pour le mettre aux normes concernant, bon, les normes en lien avec les tremblements de terre, ça coûterait 40 millions. Voyons, fait pas de sens. Il est 16h27.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine pour Charles de Gaulle, un petit peu plus nombreux à partir de l'avenue Marien. Je regarde secteur Henri Bourassa, on ralentit un peu et ça demeure dense jusqu'à bon, un petit peu avant le pont d'étagement du CN, traversée facile vers la rive nord. Repentigny, ça se passe très bien, 40 direction est, la 341 montée de l'Épiphanie entre la 40 et la rivière L'Assomption, là c'est très lourd en ce moment. Pont Le Gardeur, accès facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame. La 25 Nord dense depuis le boulevard Lévesque en arrivant sur Laval et ce jusqu'environ 500 mètres passé la jonction avec la 440. Traversée vers l'île de Saint-Jean et l'île Saint-Jean et Terrebonne, ça va bien. Le pont Sophie-Masson, c'est facile et finalement autoroute 640 entre la 25 et la 40 dense depuis la montée des Pionniers pour la 40 et en direction ouest, c'est lourd depuis environ un peu plus d'un kilomètre avant la montée du Mai. Les nouvelles dans un instant.
Peu importe votre projet, construction, atelier, rénovation, production ou de simples besoins à la maison, la performance des outils fait toute la différence. Chez VEC, notre mission est simple. Équiper les pros, les bricoleurs et les industries en outils performants avec une expertise reconnue dans la gamme DeWalt. Perceuses, scies, meuleuses, visseuses, accessoires et équipements spécialisés, tout est là pour vous permettre d'être plus efficace, plus précis et mieux outillé, jour après jour. Chez nous, la performance ne se limite pas à l'outil, elle se retrouve aussi dans l'équipe. Conseils rapides, suivi rigoureux, solutions claires. Notre approche est aussi solide que les produits que nous distribuons. La boutique est ouverte sur rendez-vous au 450-912-1291.
Chez Moto du Charme, découvrez les souffleuses Honda, une qualité et une fiabilité inégalées. Nous avons des souffleuses éco-énergétiques, robustes et fiables pour rendre votre hiver beaucoup plus agréable et contrer les tempêtes. Chez Moto du Charme, nous sommes aussi équipés des génératrices Honda, la marque de génératrices portatives la plus vendue au monde. La meilleure pour vous réchauffer ou vous éclairer à tout moment. Que ce soit pour un achat de VTT ou de produits mécaniques Honda, Moto du Charme est votre concessionnaire de référence.
Jusqu'au 24 décembre, les Galeries Joliette t'invitent aux gourmandises du terroir. Prépare tes papilles, parce que ça va goûter le bonheur d'ici. Viens rencontrer des producteurs passionnés, découvrir des saveurs locales et te gâter avec des douceurs artisanales parfaites pour les fêtes. Fromage, chocolat, bouchées festives, produits maison, tout y est pour remplir ton bas de Noël et ton ventre. Les gourmandises du terroir jusqu'au 24 décembre aux Galeries Joliette. Le rendez-vous des amateurs de bons produits juste à temps pour Noël.
Vous avez des nouveaux services à offrir? Un talent à partager? Des conseils à donner? Des chiens à promener? Des massages à donner? Des prothèses à fabriquer? Vous avez une bonne idée? Vous voulez vous lancer? Informez-nous, on le fera savoir. Venez vous faire voir. Visitez notreentourage.ca pour voir.
Le premier festival trad du sud de Lanaudière débarque à l'Épiphanie. Pour sa quatrième édition, les 23 et 24 janvier prochains, passionnés d'activités hivernales et amateurs de musique traditionnelle vont pouvoir s'éclater. Le samedi soir à l'église, Volage et Artifice feront lever le party avec un spectacle haut en couleur. Et vendredi à la brasserie 341, ne manquez pas Mythes et Légendes pour lancer le festival en grand. Les billets sont en vente maintenant. Festival Plaisir et Tradition de l'Épiphanie, 23 et 24 janvier 2026. Pour tous les détails et la billetterie, plaisiretradition.ca.
L'actualité de ce lundi 15 décembre en manchette. La violence dans les écoles, un fléau répandu. L'aile jeunesse du Parti libéral reste neutre par rapport à Pablo Rodriguez. Et plus de 500 résidences pour aînés n'ont pas de dispositif antifugue. Et tout d'abord, Pierre Jubinville, le chef CB Flamand, favorise les échanges entre corps policiers.
Oui, il accueille favorablement le projet de Québec annoncé par Yann Lafrenière la semaine dernière de favoriser la création de régies de police autochtones et d'échanges entre les services, notamment avec la Sûreté du Québec. Québec négocie depuis plus d'un an avec des conseils de bande pour que des corps policiers puissent unir leurs forces. Le ministre de la Sécurité publique parle de différentes formes de crimes, dont le trafic de drogue auquel sont confrontées les communautés.
Ben, je pense que ça fait depuis longtemps que les communautés des Premières Nations demandent qu'il y ait une reconnaissance des services de police autochtones auprès du gouvernement. Parce qu'actuellement, les policiers de nos communautés n'étaient pas considérés, puis même en lien avec la question de sous-financement, puis l'aspect de services essentiels, c'était pas considéré. Il fallait genre négocier pour pouvoir avoir une entente convenable pour nos services de police dans nos communautés.
C'était le chef du conseil des Atikameks de Manawan, CB Flamand. D'ailleurs, Pierre, tu as réalisé une entrevue complète avec lui. On va présenter ça après le bulletin d'information.
Ouais.
La violence au quotidien dans les écoles, Pierre?
Oui, les enseignants sont victimes d'actes de violence en milieu scolaire au Québec, selon une étude dont les conclusions viennent d'être rendues publiques. Et Philippe Bonneville, des syndicats d'enseignants réclament d'ailleurs une rencontre d'urgence avec la ministre de l'Éducation.
C'est un reportage qu'il a réalisé, oui.
Absolument.
Coups de poing, crachats, insultes, morsures et intimidations sont le lot de 90 % des enseignants qui ont répondu à un sondage mené par la Fédération autonome de l'enseignement qui dit que ces données sont alarmantes. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien, ces cas de violence recensés impliquent majoritairement de très jeunes élèves. Pour la FAE, ce syndicat qui représente des dizaines de milliers d'enseignants, la situation est telle que plusieurs songent à quitter leur emploi, jugeant ne pas avoir d'appui et de ressources. Je laisse entendre Catherine Renaud du syndicat.
On est là pour enseigner. On n'est pas là pour se faire frapper comme tout autre employé, comme toute autre travailleuse et travailleur. On a le droit de travailler sans subir des actes de violence. On a le droit à ça.
On souhaite donc discuter de la situation avec la ministre de l'Éducation le plus rapidement possible.
Politique provinciale maintenant, les jeunes libéraux ne signeront pas la pétition en faveur de Pablo Rodriguez.
Non, on dit que la décision a été prise en fin de semaine lors d'une réunion du comité exécutif. Le quotidien La Presse cite le vice-président en communication de la commission jeunesse du PLQ, Noah Faour Charpentier, qui affirme qu'à la lumière des faits allégués à l'égard de Pablo Rodriguez, il est jugé approprié d'avoir une position plus neutre. Après la réunion, la commission a cru bon d'informer de sa décision le président du parti, M. Ferraro, et rappelons que le clan Rodriguez a commencé à faire circuler jeudi dernier une lettre en soutien au chef.
Bon, maintenant, c'est inquiétant. On apprend que des centaines de résidences pour aînés ne sont toujours pas munies là, d'un système anti-fugue.
Plus de 500 résidences privées pour des personnes en perte d'autonomie ou en semi-autonomie. Santé Québec leur avait pourtant demandé de se conformer au règlement en juillet dernier, et la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, assure que le dossier est toujours important.
C'est important. Santé Québec est en train de faire l'évaluation complète de ça. Moi, mon message est sur les personnes. Les personnes qui ont des déficits cognitifs, on doit s'assurer de leur offrir des services de sécurité, et ça, c'est extrêmement important.
On parle maintenant des médecins spécialistes.
Oui, il y a eu quand même rencontre, Claude, ce matin. La deuxième rencontre en 72 heures entre François Legault et le docteur Vincent Oliva. L'entretien n'a pas permis d'annoncer une reprise des négociations, mais Oliva a qualifié la rencontre de productive. Il doit faire part de cette rencontre au conseil d'administration avant d'envisager une reprise des discussions.
Et finalement, la formation est maintenant obligatoire pour devenir chauffeur de camion lourd.
Oui, pour obtenir un permis de conduire autorisant la conduite d'un tel véhicule, faut suivre une formation du nouveau programme d'éducation à la sécurité routière ou de formation menant au diplôme d'études professionnelles. Benoît Thérien est président de Truck Stop Québec. Il estime que c'est un pas dans la bonne direction.
C'est un bon début. Est-ce que c'est suffisant? Si c'est pour des gens qui ont travaillé sur des fermes, qui ont conduit à peu près n'importe quoi, c'est pas tellement difficile de se qualifier pour devenir camionneur. Mais lorsque vous avez jamais conduit autre chose que votre véhicule personnel, ça devient peut-être un petit peu serré, un 125 heures selon moi. Quand même, c'est un début, c'est une belle avancée là, qu'on a eue en 2025.
Ben voilà, Pierre Jubainville. Oui, et tu restes là parce qu'on présente une entrevue très intéressante là, que tu as réalisée un petit peu plus tôt là, dans un moment.
Différent.
Oui.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel.
Lanaudière PM. Première Nation.
On en parlait aux infos. Québec a déposé un projet de loi pour permettre aux régies de police autochtones d'échanger des services entre elles, également avec la SQ et les corps policiers municipaux. Et le chef de la communauté autochtone de Manawan, Sibi Flamand, accueille favorablement cette initiative. Pierre Jubainville a eu l'occasion de parler avec lui un peu plus tôt.
Ben, je pense que ça fait depuis longtemps que les communautés des Premières Nations demandent qu'il y ait une reconnaissance des services de police autochtones là, auprès du gouvernement. Parce qu'actuellement, les policiers de nos communautés n'étaient pas considérés, puis même en lien avec la question de sous-financement, puis l'aspect de services essentiels, c'était pas considéré. Il fallait genre négocier pour pouvoir avoir une entente convenable pour nos services de police dans nos communautés.
Et Manawan pourrait fusionner avec qui ou échanger des services?
Dans ce qu'on peut faire, ben, dans ce qu'on peut développer initialement, ce serait genre qu'il y a un partage de services tant du côté, par exemple, de la Sûreté du Québec ou bien vers d'autres corps de police autochtones, vers des corps de police municipaux. Je pense que ce serait bénéfique aussi d'établir ces communications-là, surtout pour faciliter également ce qu'on peut appeler la sécurité culturelle où les autochtones se font interpeller par les autorités policières non autochtones, c'est genre, on sait que la commission vient, ça c'est venu genre montrer un peu une méfiance. Puis je pense que s'il y a un partage de services qu'il y ait des policiers autochtones au niveau du corps de police québécois, je pense que ce serait bénéfique qu'il y ait une certaine collaboration puis une compréhension au niveau de la sécurité culturelle.
Donc, vous favorisez l'échange avec la Sûreté du Québec aussi, ainsi qu'avec d'autres services de police autochtones.
Effectivement, ce serait un exercice favorable, puis je pense qu'il y aura également une bonne compréhension aussi des réalités autochtones, parce que Manawan, c'est une communauté, mais il y a d'autres communautés autochtones, puis également les réalités de la société québécoise également auxquelles il faut interagir avec l'aspect autochtone, là, si je peux dire de même.
Quels sont les besoins les plus criants dans vos communautés en termes de services policiers?
C'est au niveau de la police communautaire. Tu sais, il y a la police en général, la police répressive, mais pour pouvoir apporter de la prévention, de la sensibilisation, c'est vraiment l'aspect communautaire auquel il faut mettre de l'avant. Puis c'est souvent un aspect qui est pas financé, qui est sous-financé dans les communautés autochtones. Puis s'il y a des manières de faire de manière pragmatique, je pense que ce serait bénéfique de mettre de l'avant des programmes, du financement pour pouvoir combler ce besoin dans les communautés en matière de police communautaire, de façon à créer des liens entre les membres de la communauté et la police.
Le crime est-il bien présent dans les communautés? Il prend quelle forme?
Malheureusement, les crimes sont bien présents. Par exemple, au trafic de stupéfiants, de drogue, c'est une réalité malheureuse. Puis on sait que ces drogues-là viennent des centres urbains, des grandes villes. Puis ça arrive jusqu'à nos communautés. Puis ça crée des problèmes, notamment au niveau de la dépendance, au niveau de la violence conjugale. Puis même, je pense que il faut prévenir, il faut faire des actions concertées avec les autorités policières de l'extérieur là, pour pouvoir bien faire le ménage sur ces enjeux-là.
Vous faites déjà de grands efforts pour tenter de sensibiliser votre population à diminuer le crime.
Effectivement, la communauté de Manawan a adopté un règlement pour pouvoir mettre fin au trafic de drogue en mettant un règlement sur l'expulsion des personnes qui sont reconnues coupables de trafic de stupéfiants, de drogue. Puis jusqu'à maintenant, il y a eu quand même certaines actions qui ont été faites par nos policiers, puis les dossiers sont en cours pour pouvoir apporter du concret dans ça.
Quand vous parlez d'expulsion, vous parlez de quoi au juste?
L'expulsion, c'est les faire sortir de la communauté. C'est un moyen de pression quand même répressif, je dirais, pour pouvoir apporter du ménage dans la communauté, effectivement. Mais je pense que pour pouvoir aller plus loin, comme j'ai dit plus tôt, il faut avoir des policiers communautaires, des polices communautaires pour pouvoir faire la prévention de terrain, puis aussi aller voir les jeunes, aller voir les familles, comment pouvoir réaliser ce ménage-là. Mais la politique qui a été adoptée à Manawan, c'est un moyen qui est restrictif là, pour les membres de notre communauté.
Le chef du conseil des Atikameks de Manawan, Sibi Flamand, je pense que c'est une bonne solution sur l'expulsion. Tu vends de la drogue, tu as voulu empoisonner les gens, à la porte, c'est tout. Dehors. Voilà. 16h43, si on pouvait faire ça au Québec avec d'autres citoyens, ce serait une bonne chose. Dans un moment, on parle de la crise au Parti libéral du Québec. L'aile jeunesse qui refuse d'appuyer Pablo Rodriguez, on en parle avec Pierre Paquette.
Bonjour à tous les auditeurs distingués de CFNJ. En cette période festive, au nom de toute l'équipe de Pierre-Bertrand Traitement-de-l'eau et en mon nom personnel, j'aimerais vous exprimer notre profonde gratitude envers nos clients de la région de Lanaudière et des Hautes-Laurentides. Notre mission, guidée par l'engagement envers la qualité et la durabilité, vise à vous offrir une eau d'exception, conçue pour s'harmoniser avec votre style de vie, apportant une touche de modernité et d'amélioration au confort de votre foyer. Chez Pierre-Bertrand Traitement-de-l'eau, nous sommes honorés de jouer un rôle dans votre quotidien en vous offrant l'eau à son meilleur. Merci à nos clients dévoués et à tous les auditeurs qui font de Pierre-Bertrand Traitement-de-l'eau un symbole de confiance. Que ces fêtes soient source de moments inoubliables.
Messe de Noël à Sainte-Béatrix. Célébrons ensemble la magie de Noël le mercredi 24 décembre à 16h30 au 861A rue de l'Église. La messe sera présidée par Monseigneur Gilles Lussier, accompagné d'une chorale. Bienvenue à tous.
Amateurs de burgers, venez déguster le savoureux burger Angus fromage et bacon de Harvey's. Fait de bœuf Angus de première qualité, cuit sur le grill et garni à votre goût. Rendez-vous dès maintenant au Harvey's de Berthierville, Mascouche et Notre-Dame-des-Prairies.
Concours Calendrier de l'Avent.
40 jours pour les 40 ans.
L'indice du jour, traîneau.
Le premier festival trad du sud de Lanaudière débarque à l'Épiphanie.
pour sa 4e édition les 23 et 24 janvier prochains. Passionnés d'activités hivernales et amateurs de musique traditionnelle vont pouvoir s'éclater. Le samedi soir à l'église, Volage et Artify feront lever le party avec un spectacle haut en couleur. Et vendredi à la brasserie 341. Ne manquez pas Mythes et Légendes pour lancer le festival en grand. Les billets sont en vente maintenant. Festival Plaisir et Tradition de l'Épiphanie, 23 et 24 janvier 2026. Pour tous les détails et la billetterie, plaisiretradition.ca.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Procurez-vous le tout nouveau Rogue 2026 à un taux de financement aussi bas que 0,9% en location 36 mois. Conçu pour nos hivers, vous pourrez braver la neige en toute sécurité. Passe en concession dès maintenant au 800 boulevard Base de Roque à Joliette et découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Power. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Ce soir, 18h, CFNJ présente T-shirt, jeans, baskets, directement du crapaud à Saint-Félix-de-Valois. En vedette, le trio Lepage-Marion-Thériault.
Il y a quelqu'un qui a fait caca dans mes culottes. Sacrifice. Il y a quelqu'un qui a fait caca dans mes culottes. Moi, je vous le dis, c'était mal pro.
Le trio Lepage-Marion-Thériault, ce soir 18h à CFNJ.
Une présentation de Pinard Ford Sainte-Julienne.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Salut Pierre, bon lundi.
Oui, ça va?
Ça va bien. Encore une fois, on commence la semaine en parlant de cette crise au Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, qui retient encore l'attention dans l'actualité. Tout d'abord, on apprend que Pablo s'en prend à des journalistes qui, selon lui, tentent de glisser du terrain politique au terrain personnel en ciblant sa famille. C'est que il y aurait un article en préparation qui viserait le chum de sa fille qui travaille au Parti libéral du Québec.
Ben, je pense que ce que veut faire valoir le journaliste, c'est qu'il y a eu du favoritisme. C'est-à-dire, on a engagé le chum de la fille de Pablo parce que c'était le chum de la fille de Pablo. Oui. Je pense pas que ça va les mener très, très loin, mais donc ça se rajoute à une série d'autres d'autres nouvelles. Bon, par exemple, le fait que l'organisation de Pablo Rodriguez ait loué à la femme de Pablo un local, ce qui est pas illégal, mais ça donne un petit peu... à penser que c'est une on en a profité pour s'assurer que tout le monde en reçoive.
On run ça comme une business familiale, quoi.
Ouais, ben c'est ça. Ben, en fait, ils ont profité, je pense, de toutes les occasions pour s'en tirer avec un bon compte. Par exemple, aussi les bénévoles les plus actifs qui ont reçu 1 000 $, c'était le reste de la cagnotte de sa campagne. Mais tout ça, ça s'ajoute et puis laisse j'aurais un goût de manque de jugement dans plusieurs décisions qui ont été prises, soit par Pablo, soit par l'organisation de Pablo Rodriguez. Alors, donc, ça l'aide pas beaucoup dans sa campagne pour rester chef du Parti libéral du Québec.
Bon, maintenant, ça impacte aussi l'aile jeunesse du Parti libéral du Québec, puisqu'elle refuse d'appuyer Pablo Rodriguez.
Oui, elle demande pas sa démission non plus. Elle veut rester neutre, étant donné le manque d'informations disponible sur, entre autres, l'enquête de l'UPAC. Mais en même temps, faut pas faire d'illusions, là. L'aile jeunesse appuyait Milliard. Alors, la semaine dernière, c'était ceux qui ont sorti avec la lettre de démission de Pablo, c'était des partisans de Blackburn. Aujourd'hui, ben, avec l'aile jeunesse, c'est beaucoup des partisans de Milliard. Donc, c'est les deux anciens concurrents de Pablo Rodriguez qui ont l'air de tester leur possibilité de revenir dans la course avec une nouvelle course à la chefferie. Alors, en même temps, ça montre à quel point le Parti libéral du Québec est divisé actuellement sur la question du leadership de Pablo Rodriguez.
Mais c'est pas rien, Pierre, l'aile jeunesse du Parti libéral. Faut rappeler que cette aile a beaucoup de poids.
Oui, elle a beaucoup de poids lors des décisions. Mais je suis pas sûr qu'elle a du poids lors des décisions, en particulier la campagne au leadership. Mm-hmm. Je suis pas sûr que dans toutes les décisions, l'aile jeunesse ait le tiers des votes, comme c'est le cas pour le leadership. Puis malgré le fait qu'ils avaient le tiers des votes, c'est quand même Pablo Rodriguez qui a gagné. Donc, c'est pas une garantie de succès pour Milliard. Mais disons, c'est sûr, c'est un autre épine au pied pour Pablo Rodriguez, le fait de pas avoir eu l'appui de l'aile jeunesse. Et on sait que la lettre qui circule actuellement pour demander qu'il reste, là, et on sait aussi qu'elle a été initiée par des proches de Pablo, entre autres sa chef de cabinet, et donc cette lettre-là aurait recueilli jusqu'à présent des signatures, mais pas de façon, extraordinaire. Là, on parle de peut-être 40 présidents d'associations. Il y en a 125. Mm-hmm. Donc, il en reste encore un bon nombre à convaincre. Et on n'a pas encore d'idée des gros noms du parti. De vedettes ou de personnes en vue du Parti libéral.
Il n'y a pas de députés là qui sont clairement...
Ben, il semblerait pas, là, mais encore une fois, on n'a pas le décompte, mais il semble que c'est pas si facile que ça de faire signer la lettre demandant à Pablo de rester.
Mais
ça n'a pas l'air plus facile non plus pour ceux qui demandent sa démission. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment pris dans un catch-22, comme on dit. Là. Ouais. Peu importe la décision qu'ils vont prendre, ça va être mauvais pour eux. Parce que, donc, Pablo Rodriguez démissionne, une course à la chefferie. Les deux candidats qui se pointent m'ont l'air être prêts à n'importe quoi pour devenir chef du Parti libéral. Donc, ça veut dire probablement une course assez déchirante à quelques mois des élections. Et ça ne règle pas le problème que le Parti libéral est toujours suspecté de toutes sortes de malversations et que même l'UPAC va continuer son enquête. Alors, je vois pas quelle bonne décision les militants du Parti libéral pourraient prendre et que Pablo Rodriguez pourrait prendre aussi. S'il reste, bon, ça va créer énormément de divisions, on le voit déjà. S'il part, ben là, ça règle pas de problème non plus. Alors, c'est vraiment... un dilemme cornélien, comme on dit.
La semaine passée, on parlait du fait, il y avait une petite rumeur là, qui commençait à circuler à l'effet que François Legault là, pourrait déclencher des élections anticipées là, pour le printemps, histoire de déstabiliser le Parti libéral. Ça pourrait quand même jouer en sa faveur, mais Legault a dit non, il n'y en aura pas d'élection au printemps.
Non, mais je pense que ça, il l'a écarté depuis longtemps parce que s'il avait voulu... le faire, il aurait déjà envoyé des signes à l'effet qu'il allait déclencher probablement très tôt en 2026. Alors moi, j'ai l'impression que non, il va vouloir se rendre au bout en espérant que l'entente qu'il a signée avec les médecins, qui pour moi est un recul incroyable de sa part, va avoir des effets positifs dans l'opinion publique, qu'il va avoir, un événement qui était peu prévisible, un peu comme c'est arrivé pour les libéraux fédéraux quand Donald Trump a commencé à sommer ses alliés de tarifs et puis ça a moussé la candidature de Carney. Donc, je pense que Legault attend quelque chose comme ça.
Mais il cesse pas de reculer. As-tu remarqué, Pierre, depuis un bon bout de temps?
Ben là, il veut pas d'ennemis, là. Il veut juste des amis.
Mais c'est ça. Mais avec le gros virage à droite, et puis là, bon, ben, on va mettre les médecins au pas. Ça marche pas. Il recule. L'histoire des matchs à Québec. Tu te souviens des matchs de hockey de la Ligue nationale à Québec? Après ça, il dit, non, c'est un mauvais move. Il recule.
Non, mais là, il y a juste avec les syndicats qui n'a pas l'air de vouloir reculer, puis je suis pas sûr que ce soit gagnant pour lui. Parce que c'est peut-être un élément qui sous-estime, mais s'il commence à avoir de la mobilisation du côté syndical, ça va faire un hiver qui va être très très mouvementé au plan social. Puis ça, c'est jamais bon pour un gouvernement en place.
Non, ça va de soi. Merci beaucoup, Pierre Paquette.
Tout ça va servir à notre ami Paul Saint-Pierre Plamondon.
Ah, ça va de soi. C'est sûr.
OK, merci. Bye. À mercredi.
Lanaudière PM. Communautaire.
Ah, elle est bonne, celle-là. Il y a des gens d'affaires de l'Assomption qui se mobilisent pour venir en aide à des organismes communautaires de la ville. Et ça va se passer en fin de semaine, samedi 20 décembre, avec le soutien du curé de la paroisse, là, Greg Cizek, la kinésiologue Marie-Clotilde Caron, et puis son conjoint Nicolas Valois organise, imaginez-vous, une course en culotte courte dans les rues de l'Assomption. Donc, en fin de semaine, le 20 décembre. Et Jean Turgeon a eu l'occasion de les rencontrer.
Madame Caron, d'où vient cette idée d'une course en short un 20 décembre en plein cœur de l'Assomption?
Moi, ça fait plusieurs années que je me promène en short l'hiver. Et puis, je fais de la cold therapy, donc je fais des bains froids, des douches froides. Puis, justement, je me promène souvent en short. Et puis, en hiver, on me demande souvent, vous êtes pas frileuse ou, mon Dieu, vous êtes un peu folle de faire ça l'hiver. Puis là, je me suis dit, hey, pourquoi pas expliquer c'est quoi les bienfaits, là? Je fais pas ça pour avoir l'attention ou juste parce que c'est beau être en short l'hiver. Il y a plusieurs bienfaits pour ça. Fait que je voulais essayer de populariser un peu ça sans avoir nécessairement à faire un bain de glace. On peut avoir les bénéfices de la thérapie par le froid en étant en short l'hiver.
Est-ce qu'on peut se préparer à une course comme ça?
Absolument. Oui, oui. Ça, c'est, ben là, ça va être une petite course de 5 km. Donc, peut-être pour certains, ça paraît beaucoup. Mais environ, si c'est couru, c'est autour de 30 minutes en moyenne. Puis sinon, si c'est à la marche, ça peut être une heure et quart. Mais même si c'est moins 10, moins 15, il n'y a pas de danger si c'est juste en short. Dans le fond, c'est les extrémités qui sont importantes à couvrir. Puis tout le monde peut s'adapter au froid. On est des mammifères, hein, à la base. Donc, on est fait, justement, on n'est pas fait pour être à 19 degrés tout au long de l'année.
Et là, on va courir, on vient de le dire, dans le centre-ville de l'Assomption, mais ça prend un parcours, là.
Oui, absolument. Donc, on va tracer un parcours de 5 km qui est dans le méandre. Donc, on va passer en gros par la rue de l'Église. On part de notre studio, Studio Origine à l'Assomption. Puis là, après ça, on part par la rue de l'Église. Puis on va passer par le parc Léo-Jacques ensuite pour revenir sur l'Ange Gardien jusqu'au studio.
Et là, faut voir que c'est pas, on fait pas ça pour la vitesse. On y va pour la distance, plus une marche ou une course de fond.
Ça va dépendre de chaque individu. Fait que les plus compétitifs, ceux qui sont adaptés au froid, puis ceux qui sont habitués de faire 5 km, ben ils peuvent viser une performance, ils peuvent viser un temps rapide. Puis pour d'autres, ben ça va être la première fois qu'ils vont faire un 5 km, puis d'autres que ça va être juste la première fois qu'ils vont le faire en short l'hiver. Fait que ils vont y aller au feeling juste pour l'avoir fait.
Est-ce qu'il n'y a pas des risques associés à courir justement en hiver, la neige, le froid, la glace, puis ça va prendre une escorte policière, là?
Oui, c'est sûr qu'il y a certains risques dans le sens que parfois ça peut être glissant, on peut pas tout prévoir. Au niveau du froid, c'est pas tant risqué. Comme je vous dis, si les extrémités sont au chaud, puis le moindrement que la personne fait une activité physique et a chaud, je pense que tout le monde a déjà fait l'expérience de pelleter l'hiver, mais à un moment donné, t'as envie d'enlever ton manteau puis d'être en camisole, tu sais, parce que tu te réchauffes de l'intérieur, parce que c'est le processus naturel. Donc, il y a pas tant de danger associé à ça. C'est toujours de respecter ses limites, puis si quelqu'un sans plus ses extrémités puis tout ça, ben là à ce moment-là on rentre dans un commerce, tu sais, on rentre à l'intérieur, mais il n'y a aucun autre danger mis à part ça pour un 5 km.
Monsieur le curé Greg Cizek, vous vous sentez interpellé là par cette démarche là, vous comme curé de la paroisse?
Oui, moi j'ai rencontré Nick et Marie-Clotilde il y a 3 ans avec une blessure au genou et je suis très rapidement Nick m'a dit garde Greg, on va te le régler là. Faut pas que tu t'entraînes mais on va te le régler ta douleur. Puis depuis ce temps-là, je suis devenu leur disciple. Et donc dans la mesure du possible, je participe à leur folie et j'ai découvert grâce à eux cette thérapie du froid, chose que je pratique assez souvent dans le contexte de la course. Bien sûr, c'est fait partie d'une des expériences qu'ils proposent dans le gym Studio Origine et en même temps si on peut faire du bien en se faisant du bien, ben encore mieux.
Et là on veut faire du bien à deux organismes communautaires de l'Assomption, il y a une levée de fonds derrière ça là.
Effectivement, donc l'idée c'est de participer à aider à la Trace, la maison de la Trace, et aussi à aider la maison des jeunes à l'Assomption. Donc deux organismes communautaires qui tout simplement font du travail dans la communauté là ici même dans le méandre.
Madame Caron, pour finir, fallait s'inscrire. Il faut s'inscrire à cette course là. Il y a combien de participants puis on en vise combien?
Donc, pour le moment, on a une 20aine de participants. Donc, on aimerait ça se rendre au moins jusqu'à 50 parce que la course est au coût de 20 $. Donc, pour n'importe qui a déjà fait une course auparavant, c'est vraiment pas cher. Puis, tous les profits vont à la paroisse. Donc, 20 $. Et on espère vraiment avoir une 50aine au moins de participants. Puis, on a jusqu'au 15 décembre pour s'inscrire.
C'était Marie-Clotilde Caron et le curé de l'Assomption, Greg Cizek. Je suis admiratif du courage, de leur courage d'aller courir en culotte courte. samedi 20 décembre, en plein hiver, faudrait me payer cher pour marcher, aller courir dehors en culotte courte. Mais il y a des gens qui peuvent le faire pour une bonne cause, donc pour des organismes communautaires de l'Assomption. Voilà, il est 16h59, c'est déjà tout pour celui qui vous parle. Je remercie nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui. Mathieu Bélanger, François Morin, Marie-Pierre Poulin, Pierre Jubinville, Pierre Paquette, ainsi que Régent Turgeon. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Justin Lapierre sera là dans un moment pour vous présenter le 5 à 6 strades. Tout de suite après, on transporte ça, on se transporte du côté de Saint-Félix de Valois pour la série T-shirt Jeans Basket sur le coup des 18h. Et nous, on sera là demain. Oui, on vous retrouve à 16h pour une autre édition de l'Anaudière PM à CFNJ 99.1. À demain!